Chapitre 4. Dans les chapitres 4 et 5, l'apôtre passe du ministère de l'Évangile au ministre, ou serviteur de Christ. C'était nécessaire du fait de tous ceux qui avaient surgi parmi les chrétiens et qui corrompaient la parole de Dieu, et aussi du fait de ceux qui assaillaient les serviteurs de Dieu, les surveillant, guettant et accusant de marcher selon la chair. C'étaient des ouvriers trompeurs qui se transformaient en apôtres de Christ. Chapitre 10, verset 3, chapitre 11, versets 12 et 13. En contraste avec eux, l'apôtre montre dans ces chapitres les caractères des vrais serviteurs de Dieu. Versets 1 à 6. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Fin de citation. Ayant ce ministère de l'Esprit et de la justice fondée sur Christ dans la gloire, et ayant reçu la miséricorde pour la faire connaître malgré toute l'opposition, l'apôtre peut dire « Nous ne nous lassons point ». En regardant au Seigneur, Pierre pouvait marcher sur l'eau agitée. En abaissant son regard sur l'eau, il commençait à s'enfoncer, même si l'eau avait été calme. De même, l'apôtre, ayant les yeux fixés sur Christ dans la gloire et contemplant la gloire du Seigneur, il peut dire « Nous ne nous lassons point ». De plus, la vie de l'apôtre était en accord avec son ministère. Il ne permettait pas dans sa vie des choses cachées, honteuses, tout en prêchant un évangile qui les dénonçait. Il ne marchait pas dans la tromperie comme certains, dont il parle un peu plus loin comme étant des ouvriers trompeurs. Il ne cherchait pas à servir à ses propres fins, ou à s'exalter tout en prenant la place d'un serviteur du Seigneur. Il ne falsifiait pas non plus la parole de Dieu. Il n'essayait pas de tordre la parole de Dieu pour s'adapter aux théories de l'homme, ni à l'atténuer pour épargner la chair. Il ne cachait pas ses déclarations les plus claires, que ce soit celles exposant la ruine de l'homme et sa condamnation, ou la plénitude de la grâce de Dieu. Les hommes ne pouvaient trouver aucun prétexte pour refuser l'évangile que Paul prêchait, parce que rien, dans sa vie, n'offensait la conscience. Il n'y avait aucun motif indigne dans sa prédication, ni aucune dissimulation, ni perversion de la vérité. Hélas, il en avait été bien autrement chez les saints de Corinthe. Comme le montre la première épître, ils avaient laissé faire bon nombre de choses cachées honteuses. L'esprit de parti au milieu d'eux avait conduit à une marche dans la tromperie. Certains avaient falsifié la parole de Dieu, allant jusqu'à nier la résurrection. Ils avaient marché et traité la parole de Dieu d'une manière choquant même la conscience naturelle. Les vrais serviteurs de Dieu se recommandent à la conscience des hommes pour qu'on soit obligé d'admettre qu'ils agissent justement aux yeux de Dieu. Les gens ne sont pas prêts à suivre le Seigneur, mais il faut qu'ils admettent ne trouver aucune faute en lui. Vu que la vie de l'apôtre était en accord avec sa prédication et que l'évangile qu'il prêchait était une présentation intacte et complète de la parole de Dieu, il peut dire « Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent ». Avec Paul, il n'y avait pas de voile, rien pour obscurcir le témoignage, ni dans la prédication, ni dans le prédicateur. Il redonnait la vérité aussi purement qu'il l'avait reçue. Avec un tel ministère, si l'évangile était rejeté, c'était qu'un voile d'incrédulité recouvrait le cœur des auditeurs. Satan, le dieu de ce monde, utilisait l'incrédulité de l'homme pour aveugler leurs esprits face à la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Pour de telles personnes, le résultat était fatal. il les laissait dans leur état de perdition. Comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas simplement que Satan l'obscurcissait pour eux, mais c'est leur propre incrédulité qui les amenait sous la puissance de Satan. Quant à nous, il peut y avoir dans nos vies des inconséquences qui nuisent à l'évangile prêché, et l'évangile que nous prêchons peut être mêlé d'imperfections, de sorte que nous ne pouvons pas dire catégoriquement que celui qui l'entend et s'en va sans être sauvé a effectivement refusé l'évangile. Il y a une grande différence entre entendre et refuser. Un auditeur de l'évangile peut revenir et réentendre et être sauvé. En outre, l'évangile que Paul prêchait était non seulement que Christ était mort et est ressuscité, mais qu'il est glorifié. C'est l'évangile de la gloire de Christ. C'est non seulement que Christ est dans la gloire, mais que celui qui a pleinement manifesté Dieu est glorifié. Cet évangile comprend donc aussi le témoignage éternel à la satisfaction infinie de Dieu en Christ et dans son œuvre, ainsi que la position d'acceptation et de faveur du croyant, et la base juste pour proclamer le pardon et le salut aux pécheurs. Ayant présenté sa manière de prêcher et l'évangile qu'il prêchait, l'apôtre peut dire en vérité « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ». Quand la lumière de l'évangile de la gloire de Christ eut brillé dans son cœur, il apprit son propre néant. Il découvrit que malgré tous les privilèges dont il se vantait sous la loi, il était perdu. Et malgré toute son hostilité contre Christ et les siens, c'est par grâce qu'il était sauvé. De ce fait, il ne pouvait pas parler de lui-même, mais seulement du Christ Jésus le Seigneur, lui-même étant esclave. Le pharisien orgueilleux d'autrefois était devenu, pour l'amour de Jésus, l'esclave de ceux qu'il avait jadis persécutés. Cet esclavage pouvait bien impliquer des souffrances de toutes sortes et conduire à être incompris, et parfois négligé ou même à rencontrer l'opposition des saints eux-mêmes. Pourtant, l'apôtre endurait tout pour l'amour de Jésus. L'intérêt personnel, le gain temporel, l'auto-exaltation et les applaudissements des hommes, tout cela était perdu de vue du fait de la joie de servir pour l'amour de Christ. Combien il pouvait dire en vérité « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ». Ce grand changement était dû à l'opération de Dieu dans le cœur de l'apôtre. Par cette opération, la lumière de la gloire de Dieu dans la face de Jésus avait brillé dans son âme sombre, de même que, par la parole de Dieu, la lumière physique avait dissipé l'obscurité quand Dieu forma la terre pour l'homme. En outre, la lumière qui pénétrait dans le cœur de l'apôtre était non seulement la source de sa propre bénédiction, mais elle faisait aussi luire pour les autres l'évangile de la gloire de Christ. Versets 7 à 12. Citation de l'Écriture. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort, pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. » Fin de citation. Dans ces versets, l'apôtre parle des vases dont Dieu se sert pour son service. Les anges sont des serviteurs, mais ils sont laissés de côté, et nous apprenons que Dieu a choisi pour son service des hommes avec des corps susceptibles de souffrir, dépérir et mourir. Le trésor est ainsi placé dans des vases de terre. Les hommes mettent souvent leur trésor dans un coffret très coûteux, et parfois le coffret éclipse les bijoux. Dieu met son trésor dans un vase d'argile, fragile et périssable. Il fait ainsi grand cas du trésor d'une part, et de l'excellence de sa puissance d'autre part. Combien toutes les voies de Dieu sont parfaites en sagesse. Si Dieu avait mis ce trésor dans des anges glorieux qui excellent en force, l'homme n'aurait-il pas été arrêté par la gloire du vase plutôt que par la gloire du trésor? Et quelle portée aurait pu avoir le déploiement de la puissance de Dieu sur un être spirituel qui excelle en force? On pourrait alors penser que le vase de terre serait une entrave au resplendissement de la lumière. Mais la faiblesse même du vase devient seulement l'occasion de rendre manifeste l'excellence de la puissance de Dieu. Si la lumière brille à partir d'un homme pauvre et faible, il est évident que la puissance est de Dieu. Si deux pécheurs illettrés et ignorants peuvent faire marcher parfaitement un boiteux et prêcher de manière à convertir 5000 personnes, malgré toute l'opposition des chefs religieux et des dirigeants de ce monde, il est évident qu'ils sont soutenus par une puissance surabondante et supérieure à toute la puissance organisée contre eux. Cette puissance est la grande puissance de Dieu présent auprès de son peuple par l'Esprit Saint. Le vase de terre, avec la lumière qui resplendit, semble être une allusion à Gédéon et aux 300 hommes qui le suivaient. Ils devaient prendre des cruches vides et des torches dans les cruches. Puis, au bon moment, ils sonnèrent de leurs trompettes, cassèrent leurs cruches et les torches brillèrent. Juges 7, versets 16 à 20. Le vase vide dans lequel la lumière avait été mise était dans un sens une entrave au resplendissement de la lumière. Le vase devait donc être brisé. Ce chapitre fait voir que les circonstances pénibles qui viennent sur l'homme extérieurement sont permises pour montrer que, si l'homme extérieur dépérit, c'est pour que la puissance de Dieu soit manifeste et que la lumière resplendisse. Si un ange avait été envoyé pour ce service, il n'aurait pas pu être réduit à l'étroit, ni rendu perplexe, ni être persécuté, car il n'aurait pas eu de corps pouvant être affecté par les circonstances. Un témoignage rendu par un ange aurait été rendu par quelqu'un d'une puissance irrésistible, comme il y en aura au jour à venir dont parle l'Apocalypse. Un témoignage rendu par un homme au corps fragile est un témoignage rendu dans des circonstances de faiblesse, laquelle ne fait que démontrer l'excellence de la puissance de Dieu. Ainsi, Paul a été dans la tribulation de toutes parts, c'est le vase de terre, bien que dans la tribulation, il n'était pas réduit à l'étroit, c'est la puissance de Dieu. Il était dans la perplexité, c'est le vase de terre, mais son chemin n'était pas entièrement bouché, c'est la puissance de Dieu. Il était persécuté, c'est le vase de terre, mais non pas abandonné, c'est la puissance de Dieu. Il était abattu, c'est le vase de terre, mais non pas détruit, c'est la puissance de Dieu. Dans toutes ses afflictions, il portait partout dans le corps le mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Notre traduction dit bien « portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus », mais la note indique « le mourir de Jésus ». La mort de Christ a en effet placé le croyant au-delà de la puissance de la mort et du jugement, dans une position toute nouvelle devant Dieu, en Christ. Ici, cependant, l'apôtre parle non pas de la mort de Jésus comme faisant l'expiation devant Dieu, mais du mourir de Jésus comme le saint martyr souffrant entre les mains des hommes. En mourant sur la croix, il était l'objet de l'opprobre et du mépris des hommes, celui sur lequel ils entassaient toutes les insultes et l'indignité. Nous ne pouvons pas partager les souffrances expiatoires de sa mort sous la main de Dieu, mais nous pouvons avoir part, dans une mesure, aux souffrances de martyrs en train de mourir entre les mains des hommes. Portant un tel témoignage fidèle à Christ, Paul a dû supporter dans une certaine mesure ce que le Seigneur a enduré à fond quand il mourait. Le corps de Paul était constamment soumis à la souffrance et aux insultes, et de cette façon il portait toujours et partout dans son corps ce que le Seigneur a dû porter quand il mourait, avec le résultat béni que la vie parfaite de Jésus était manifeste dans son corps d'apôtre. Les souffrances du Seigneur comme martyr, quand il mourait, n'ont suscité ni murmures ni plaintes de ses lèvres. Au contraire, elles ont fait jaillir l'amour infini de son cœur et l'ont conduit à prier pour ses bourreaux. À la suite de ce modèle parfait, les souffrances et les persécutions auxquelles l'apôtre était exposé dans son corps ont été l'occasion de manifester les grâces de la vie de Jésus. Si l'apôtre était sans cesse livré à la mort, ce n'était pas en châtiment pour quelque chose qui avait besoin d'être corrigé dans sa vie. Ce n'était pas à cause de lui-même, mais pour l'amour de Jésus qu'il a été permis à la mort de peser sur lui, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans sa chair mortelle. Tandis que Paul subissait les épreuves de la mort, d'autres voyaient la béatitude de la vie. Il pouvait donc dire « Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. » Versets 13 à 15. Citation de l'Écriture. « Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce, abondant par le moyen de plusieurs, multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. » Fin de citation. L'apôtre continue en parlant de la puissance qui, de son côté, l'a soutenu dans toutes ses épreuves. C'était la puissance de la foi. C'était le même esprit de foi qui soutenait le psalmiste quand les douleurs de la mort l'entouraient, quand il rencontrait difficultés et douleurs et qu'il était grandement affligé. Il pouvait alors parler de la vie, car il dit « Je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants ». Puis il nous dit comment il se faisait qu'au milieu de la mort, il pouvait parler de la vie, car il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Psaume 116, versets 3, 9 et 10. De plus, l'apôtre nous dit ce qui soutenait sa foi. Il avait devant lui la puissante force de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Par la foi, il savait que cette même puissance le concernait et le ressusciterait avec Jésus et le présenterait à Jésus en compagnie des saints vivants et des saints transmués. Ainsi, il pouvait faire face chaque jour à la mort, étant soutenu par la foi dans le Dieu de résurrection. En outre, toutes les épreuves et expériences que l'apôtre traversait étaient pour l'amour de l'assemblée et pour la gloire de Dieu. Ces épreuves n'étaient pas simplement pour son bien, mais pour le bien de tous. De cette façon, la grâce accordée à l'un abonde pour beaucoup, étant une source d'action de grâce de la part de beaucoup à la gloire de Dieu. Versets 16 à 18. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Fin de citation. Ainsi, l'apôtre ne se lassait pas du fait que la gloire de Dieu était assurée à travers ses épreuves. Néanmoins, l'homme extérieur, l'homme en contact avec la scène présente, dépérit sous la pression des épreuves, de la persécution, des infirmités et de l'âge. L'homme intérieur, l'homme en contact avec les choses spirituelles et invisibles, est renouvelé de jour en jour. Il y a de la croissance spirituelle dans l'homme intérieur. Les épreuves et les infirmités elles-mêmes qui affaiblissent et fatiguent le corps deviennent l'occasion de fortifier et renouveler l'esprit. Vu donc que l'homme intérieur est renouvelé dans les épreuves et les afflictions, l'apôtre estime les afflictions présentes comme légères et ne durant qu'un moment, et elles opèrent pour le bien. Ces épreuves momentanées auront une réponse éternelle. Les afflictions sont temporaires, légères et humiliantes, mais elles opèrent un poids éternel de gloire. Cependant, c'est seulement dans la mesure où nous regardons aux choses qui ne se voient pas, et non pas à celles qui se voient, que nous sommes soutenus sans nous lasser au milieu des épreuves. Les choses qui se voient sont seulement pour un temps. Les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Le chapitre précédent s'était terminé sur le fait de contempler la gloire du Seigneur. Celui-ci se termine sur le fait de regarder aux choses invisibles. Là, au chapitre 3, le croyant reflétait Christ en le contemplant dans la gloire et était ainsi soutenu comme une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Ici, au chapitre 4, il est soutenu au milieu des épreuves en regardant le poids de gloire éternelle et invisible encore à venir. Au cours du chapitre 4, nous voyons la belle manifestation du vrai serviteur, considéré comme un vase du Seigneur. Nous parlons parfois d'être des canaux de bénédiction, mais l'Écriture parle-t-elle jamais de cette façon? Un canal est simplement un conduit à travers lequel quelque chose coule. Il ne retient rien. Un vase contient quelque chose et doit être rempli avant de pouvoir donner aux autres. Premièrement, nous voyons que le vase doit être un récipient propre pour l'usage par le Seigneur. Il doit être débarrassé des choses honteuses. Verset 2. Deuxièmement, le vase doit être vidé. Tout ce qui est du moi doit être mis de côté, afin que Christ puisse avoir sa vraie place comme le Seigneur et nous, notre place comme esclaves. Verset 5. Troisièmement, le vase doit être rempli. La lumière de Christ dans la gloire doit remplir nos cœurs pour que nous puissions être des témoins pour Christ. Étienne devint un merveilleux témoin pour Christ quand, rempli du Saint-Esprit, il fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quatrièmement, le vase doit être brisé pour que la puissance de Dieu se manifeste. Nous ne sommes que des vases de terre, et la faiblesse même du corps devient l'occasion de manifester la puissance de Dieu. Versets 7 à 9. Combien la puissance de Dieu s'est remarquablement manifestée en Étienne, tandis que les pierres brisaient le vase de terre. Cinquièmement, le vase étant brisé, la lumière resplendit. Versets 10 à 12. La vie de Jésus resplendira si la sentence de mort est maintenue sur tout ce que nous sommes étant dans la chair. Lorsque Étienne a été livré à la mort à cause de Jésus, la vie de Jésus a été manifestée, car il pria pour ses bourreaux comme Christ l'avait fait, et il remit son esprit au Seigneur comme le Seigneur avait remis le sien au Père. Sixièmement, quand la lumière de la vie de Jésus resplendit hors du vase de terre, il devient vase pour la gloire de Dieu. Verset 15. Septièmement, celui qui utilise le vase pour la gloire de Dieu aura le privilège béni de réaliser le passage au poids éternel de gloire.